Chapitre 10. Comme ils ont frappé, il est logique et poli que je leur réponde. Je sais que la paroi va être chaude, alors je donne trois petits coups rapides. Trois, comme eux. Il n'y a pas de réponse immédiate. J'en profite pour examiner longuement la paroi. Il y a une quarantaine d'hexagones qui paraissent tous différents. Des matériaux différents? Peut-être. Je suis supposé faire quelque chose, je le sens, mais quoi? Sont-ils en train de m'observer? Je ne vois rien qui ressemble à une caméra. Je brandis l'index et le pointe vers mon sas. J'ignore s'ils me voient ou s'ils comprennent la signification de ce geste. Je prends appui sur les hexagones et me propulse vers le sas, où j'ouvre la porte intérieure. Pourquoi pas? La pression est la même des deux côtés. Je peux très bien laisser le sas ouvert. En cas de perte de pression dans le tunnel, la porte du sas se refermera d'elle-même, et je resterai vivant. Je me rends dans le labo, où je remplis un sac avec des objets soigneusement choisis, puis je retourne dans le tunnel. Pour commencer, je colle plusieurs lampes à LED sur la paroi du tunnel, et je les dirige vers les hexagones. Au moins, je verrai ce que je ferai. Je dégaine mon cher spectromètre à main et scanne un des hexagones. De la xénonite. Presque la même composition que les cylindres qu'ils m'ont envoyés plus tôt. Presque. Il y a quelques différences dans les éléments résiduels. Intéressant. Peut-être la xénonite est-elle comme l'acier, dont il existe de nombreuses recettes. Je scanne l'hexagone suivant. Une nouvelle combinaison subtilement différente. Hypothèse, différents types de xénonite optimisés pour différentes situations. Ils n'ont aucune idée de la nature de mon air. Ils veulent donc voir comment réagissent différents alliages. Quand j'aurai quitté le tunnel, ils examineront les hexagones pour déterminer lequel s'en est le mieux sorti. Cela signifie que je devrais quitter le tunnel. Devrais-je dépressuriser ma moitié pour eux? Ce serait poli et facile. Il me suffirait d'ordonner la dépressurisation du sas, qui serait sacrément étonné de la quantité d'air à évacuer. Il ne flancherait pas cependant. Il pomperait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Sauf que les Éridiens ont peut-être un moyen de tester mon atmosphère en restant de leur côté. Je devrais donc laisser mon atmosphère, non? Je décide de laisser mon atmosphère. Ils ont sûrement un moyen d'en prélever. Si j'avais construit ce tunnel, j'en aurais prévu un. Et vu qu'il me semble plutôt malin... Comme je me tourne vers le sas, quelque chose attire mon regard, du mouvement. Je fais volte-face. Rien n'a changé sur la paroi couverte d'hexagones, et pourtant, je jurerais avoir vu quelque chose bouger. Quelques hexagones sont brillants. J'ai dû voir mon reflet dans l'un d'entre eux. Attendez, un hexagone sort du lot. Pourquoi? Il est proche de la paroi. Ce n'est pas très évident. Je m'en approche en flottant pour l'examiner de plus près. Saperlipopette. L'hexagone est transparent. Tous les autres sont opaques, mais celui-ci est comme du verre. Je décolle une lampe et la braque sur l'hexagone. J'appuie ma tête contre la paroi chaude du tunnel pour regarder de plus près. La lumière passe à travers. Je distingue la moitié éridienne du tunnel. Soit leur atmosphère est transparente comme la nôtre, soit ils ont fait le vide de leur côté. En tout cas, il n'y a rien pour bloquer ma vue. Soudain, un caillou frappe l'autre côté de l'hexagone. Et il reste là. Il n'est qu'à quelques centimètres de moi. Il est vaguement triangulaire, marron foncé, a des contours dentelés, bruts. Un peu comme une pointe de lance préhistorique. Ai-je croisé la route d'hommes des cavernes de l'espace? Cesse de dire n'importe quoi, Ryland. Pourquoi ont-ils mis un caillou ici? Est-il collé de l'autre côté? S'agit-il de m'empêcher de voir? Le cas échéant, ce n'est pas très efficace. Le petit triangle ne mesure que 5 cm de longueur, alors que l'hexagone dépasse les 20 cm. Et cela devient encore plus fou. Le caillou semble articulé et se replier. Et deux autres cailloux font la même chose. Et il y en a un plus grand, juste derrière, qui... Ce ne sont pas des cailloux. C'est une pince. Une pince avec trois doigts. J'ai tellement envie d'en voir plus. Je presse mon visage contre l'hexagone. Il est brûlant, mais j'insiste. C'est douloureux, oui. Et cela va sans doute laisser une marque. Je devrais retourner au labo chercher une caméra, mais bon, personne n'aurait cette présence d'esprit dans un moment comme celui-ci. Je gémis de douleur, mais je suis récompensé par une meilleure vue. La pince extraterrestre, disons plutôt la main, c'est moins effrayant. La main extraterrestre est munie de trois doigts triangulaires, chacun avec une articulation, une phalange en somme. Ils peuvent se refermer, replier les bouts en gouttes d'eau, ou bien s'écarter à la manière d'une étoile de mer à trois bras. La peau est étrange. On dirait de la roche brun noir. Elle est irrégulière et bosselée, comme si on l'avait sculptée dans du granit et qu'on n'avait pas pris la peine de la polir. Une armure naturelle, peut-être, comme une carapace de tortue, quoique moins organisée. Il y a un bras aussi. Sous cet angle, je le vois à peine, même si je presse davantage ma joue contre le mur brûlant des tourments. Il y a bel et bien un bras derrière la main. En même temps, c'est normal, non? Il ne s'agit pas d'une main magique flottant dans les airs. La douleur devient insupportable. Je décolle mon visage de l'hexagone. Je me touche le visage. Ma peau est sensible, mais je ne sens aucune ampoule. Toc, toc, toc. L'extraterrestre tapote l'hexagone du bout du doigt. Je le tapote trois fois pour lui répondre. Il recommence. Trois fois aussi. Je l'imite. Alors il se produit quelque chose de déroutant. La main se retire avant de réapparaître avec un objet, qu'elle tend devant l'hexagone transparent. Quoi que ce soit, c'est petit. Je m'approche en flottant de la paroi pour l'examiner. La chaleur me réchauffe le visage. C'est de la xénonite, évidemment. Cela ne mesure pas plus d'un centimètre et demi de haut et présente des détails très fins. On dirait une poupée, à la tête surdimensionnée et aux membres très épais. Oh, c'est moi! C'est une toute petite, une minuscule combinaison d'AEV russe Orlan MKS-2. C'est tout ce qu'ils ont vu de moi pour l'instant. Une autre main apparaît. Eh, je possède deux mains aussi. Je ne devrais pas être surpris. Cette autre main tient un modèle réduit du Dernière Chance. Il est à la même échelle que ma figurine. Les mains glissent alors le petit moi dans le sas du vaisseau. Le message est clair. Retourne dans ton vaisseau. Je lève le pouce. L'extraterrestre lâche la maquette du Dernière Chance, puis il contorsionne sa main dans une imitation de mon geste. Deux doigts repliés, formant une boule, tandis que le troisième est levé. Heureusement, ce n'est pas celui du milieu. Je retourne dans mon vaisseau et je ferme le sas derrière moi. J'ai la respiration rapide et sifflante d'excitation. Je n'arrive pas à y croire. C'est un extraterrestre. Je viens de voir un extraterrestre. Pas seulement un vaisseau extraterrestre, mais un être vivant. Enfin, je n'ai vu que sa main. Mais quand même. Je dis un extraterrestre, mais il s'agit peut-être d'une extraterrestre. Ou d'autres choses encore nécessitant des articles et pronoms qui n'existent pas dans les langues de l'humanité. Pour ce que j'en sais, ils peuvent très bien avoir 17 sexes biologiques différents. Ou aucun. Personne ne parle jamais de ce qu'il y a de plus difficile dans un premier contact extraterrestre, à savoir le choix des pronoms. Je me contenterai d'un « il » pour l'instant, histoire de ne pas dire « ça », ce qui serait pour le moins malpoli. Et puis, jusqu'à preuve du contraire, il s'appellera Rocky. Bon, et maintenant? Rocky m'a demandé de retourner dans mon vaisseau, et c'est ce que j'ai fait. Je me sens un peu bête. Je devrais être en train de faire plein d'expériences, non? Je regarde par le hublot du sas. Comme mes lampes sont toujours collées sur la paroi du tunnel, Je vois qu'il y a eu du changement. Le mur d'hexagone a disparu, complètement. Désormais, je peux voir la coque du spot A et un robot accroché dessus qui accomplit quelques tâches avec ses petites mains de robot. Évidemment, celle-ci ressemble beaucoup aux mains de Rocky. Trois doigts. À peu près la même taille. Probablement contrôlée par un genre de Power Glove Nintendo depuis l'intérieur du vaisseau. Punaise, je me fais vieux. Le robot semble s'intéresser particulièrement à mes lampes, comme je le comprends. Des artefacts fabriqués par une espèce inconnue ayant développé une technologie propre. Ce ne sont certes que des lampes ordinaires, mais des lampes d'une autre planète pour mes amis iridiens. Peut-être même est-ce la plus grande découverte scientifique de leur histoire. Le bras robotique les décolle et les met dans un casier dans la coque du spot A. Aussitôt, la trappe se referme. Ces lampes vont être les lampes les plus étudiées de l'histoire des lampes. J'en fais le pari. Je suis content pour eux. C'est une découverte considérable, mais ils m'ont privé de ma source de lumière. J'entends des bruits métalliques occasionnels, mais il fait nuit noire là-dedans. C'est intéressant en soi. Je ne viens pas de 40 Eridani, mais si je travaillais avec un robot contrôlé à distance, j'aurais une caméra braquée dessus et un éclairage pour y voir clair. Il semblerait qu'il n'ait pas besoin de tout cela. Pour eux, la lumière est superflue. Attendez une minute. Leur spectre visible est peut-être complètement différent du nôtre. Les humains ne voient qu'une minuscule fraction des longueurs d'onde de la lumière. Nous avons évolué de façon à voir celle qui prévalent sur Terre. Il se peut que les Eridiens aient évolué avec des longueurs d'onde différentes. Le tunnel pourrait très bien être inondé d'infrarouge et d'ultraviolet, et je n'y verrais que du feu. Un robot. Pourquoi ? Il y avait un être vivant dans ce tunnel il y a seulement quelques minutes, mon pote Rocky. Alors pourquoi le remplacer par un robot ? Le vide. Ils ont sans doute vidé le tunnel de son air. Ils ont un échantillon de ma coque, ils savent qu'elle est constituée d'aluminium et connaissent à peu près son épaisseur. Peut-être ne sont-ils pas certains que mon vaisseau soit capable de supporter une pression extérieure. Ou bien leur atmosphère réagit-elle mal avec l'aluminium. D'où la nécessité de faire le vide dans le tunnel et d'y faire travailler un robot. J'ai l'impression d'être Sherlock Holmes. Je n'ai rien vu du tout, mais cela ne m'empêche pas de tirer de nombreuses conclusions. Des conclusions hautement spéculatives et sans aucune preuve pour les étayer, mais des conclusions quand même. Je pourrais aller chercher une autre lampe, il y en a quelques-unes dans le labo. Je pourrais la pointer à travers la vitre pour voir ce que fait Robot Rocky. Je le saurais bien assez tôt de toute façon. Et pas question que quelque chose d'intéressant se passe pendant que je suis à l'autre bout du vaisseau. Et là, quelque chose d'intéressant se passe. Toc, toc, toc. Non, ce n'est pas du tout flippant. Être à 12 années-lumière de chez soi et entendre quelqu'un frapper à la porte est tout à fait normal. Il me faut absolument une autre lampe à présent. Je fonce dans le labo telle une boule de flipper et je remonte aussitôt dans la salle de contrôle avec une lampe. Je dépressurise le sas sans me donner la peine d'enfiler la combinaison d'AEV. Et puis j'ouvre les valves des deux portes pour pressuriser le tunnel. Cela fonctionne comme je l'espérais. Il y a toujours un joint étanche dehors. Je déverrouille la porte extérieure et je flotte dans le tunnel, lampe à la main. Le mur d'hexagone n'est plus là. Il a cédé la place à une paroi solide et parfaitement transparente. Et derrière celle-ci, j'avise Rocky. Rocky est une araignée. Une énorme araignée. Je me retourne pour m'enfuir, mais mon cerveau rationnel reprend rapidement le dessus. Doucement, calme-toi. Ils sont amicaux, me dis-je. Je lui refais doucement face. Rocky est plus petit qu'un humain. Il a la taille d'un labrador. Il possède 5 pattes réparties de façon régulière autour d'un genre de carapace. Celle-ci est un pentagone mesurant environ 45 cm de largeur sur une bonne vingtaine d'épaisseur. Je ne vois pas d'yeux, ni de visage. Chaque patte est pourvue d'une articulation en son milieu, un genre de coude. Chaque jambe, peut-être devrais-je dire bras, se termine par une main. Il a donc 5 mains. Chacune d'entre elles est pourvue de ces 3 doigts que j'ai vus plus tôt. Les 5 mains me semblent parfaitement identiques. Rocky ne semble pas avoir de devant ni de derrière. C'est un pentagone symétrique. Il est habillé. Les jambes sont nues, révélant une peau à l'allure minérale, tandis que la carapace est habillée. Imaginez une chemise percée de 5 trous pour les bras. J'ignore de quoi est constitué ce vêtement, mais le matériau paraît plus épais que celui des habits humains typiques. Il est de couleur brun-vert terne, teint de façon irrégulière. Il y a un grand trou circulaire sur le dessus, là où se serait trouvée l'encolure d'une chemise humaine. J'imagine qu'il s'habille en levant les bras et en enfilant son vêtement comme on enfilerait un t-shirt, chaque bras passant par son trou. Il n'y a pas de cou, ni de tête. Juste un pentagone à l'apparence rocailleuse et dure qui dépasse un peu de la peau sèche. De son côté du tunnel, il dispose de poignées et d'un treillage sur la paroi. Rocky se tient tranquillement à une barre avec 2 de ses mains. L'absence de pesanteur n'est pas un grand problème lorsqu'on a 5 mains. Une ou 2 mains pour se maintenir en place, les autres pour travailler, faire des choses. Pour moi, le tunnel est un peu étriqué. Pour lui, il est spacieux. Il agite une de ses mains libres. Il maîtrise le salut humain et compte bien l'exploiter. Je lui réponds. Il agite de nouveau la main. Je secoue la tête. Plus envie de faire coucou. Il fait pivoter ses épaules, tourne sa carapace d'avant en arrière. Il a secoué la tête comme il le pouvait. Je me demande combien de temps encore nous allons jouer à Jacques a dit. Rocky aussi semble se lasser. Il étire une main et tapote 3 fois sur la paroi transparente, puis il garde sa main ouverte, les doigts tendus. Pointe-t-il quelque chose ? Je tourne la tête dans la direction indiquée et je découvre qu'on m'avait laissé quelque chose. Un cadeau. Je suis excusé. La vision d'un extraterrestre m'a détourné de la collection d'objets sur la paroi. D'accord. Voyons cela. Dit Rocky. Ma mâchoire inférieure se décroche. Oui, je suis en apesanteur, mais elle se décroche quand même. Il n'y avait pas d'articulation, ni d'inflexion, simplement des notes. Un peu comme le chant des baleines, mais en plus complexe, car il y avait plusieurs notes à la fois. Des mots de baleine. Il m'a répondu, ce qui signifie qu'il m'a entendu. Je note que les sons émis étaient dans un registre audible pour moi. Certaines notes étaient très graves, d'autres très aiguës, mais elles étaient audibles. Quand j'y pense, c'est extraordinaire. Il vient d'une autre planète. Il est le fruit d'une évolution totalement étrangère à la nôtre, et pourtant nous communiquons dans des registres sonores compatibles. Par ailleurs, Rocky a décidé que les sons que j'ai émis méritaient une réponse. « Vous avez une langue ? » m'exclamai-je. « Mais comment ? Vous n'avez même pas de bouche ?» explique Rocky. C'est tout à fait rationnel en réalité. On ne construit pas de vaisseau interplanétaire sans civilisation. Et il n'y a pas de civilisation possible sans communication. Ils ont donc forcément un langage. Un langage à base de sons comme ceux des humains, ce que je trouve également intéressant. Est-ce une coïncidence? Peut-être pas. Peut-être est-ce la manière la plus simple de développer cette faculté. Reprend Rocky en désignant les objets qu'on m'a laissés. « Oui, oui, » le rassurai-je, même si je suis davantage intéressé par cette histoire de langue. Je préférerais explorer cette question, mais Rocky semble vouloir savoir ce que je pense de ces cadeaux. Je flotte jusqu'aux objets. Ils sont fixés à la paroi avec mon propre ruban adhésif. J'avise une paire de sphères. Chacune est ornée d'une image embossée. L'une représente le Dernier Chance et l'autre le Spot A. Je décolle le Dernier Chance du ruban adhésif. La sphère n'est pas chaude. À vrai dire, le tunnel n'est plus chaud non plus. Intéressant. Peut-être ont-ils remarqué que je n'étais pas très à l'aise avec la chaleur et ont-ils fait un effort pour moi. J'entends quelque chose bouger à l'intérieur. Je secoue la sphère et j'écoute. Oui, j'entends cliqueter. Je repère une rainure. J'essaye de dévisser les deux moitiés, dans le sens d'une montre évidemment, et j'y parviens. Du regard, je cherche l'approbation de Rocky. Vu qu'il n'a pas de visage, il n'a pas d'expression. Il flotte là, à me regarder. Enfin, façon de parler, il n'a pas d'yeux. Il attend. Comment sait-il ce que je fais? Car il sait, puisqu'il m'a fait un signe de la main. Il a forcément des yeux quelque part. Je suis incapable de les reconnaître. Je me concentre sur la sphère. Je sépare les deux hémisphères et je découvre d'autres petites sphères de la taille d'une perle à l'intérieur. Je soupire. Cela soulève plus de questions que cela n'apporte de réponses. Les perles flottent hors de la sphère, puis devant mes yeux. En réalité, il s'agit d'un unique objet, les perles étant reliées entre elles par des fils. Comme un collier complexe, je le déploie. On dirait, c'est bizarre mais c'est ainsi, des menottes avec des perles. Deux bracelets fins ornés de perles reliés entre eux par un fil. Il y a 8 perles sur chacun des bracelets. Sur le fil qui les relie, aucune. C'est délibéré forcément, mais je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. Peut-être l'autre sphère, celle qui est ornée du spot A, m'éclairera-t-elle. Je laisse les menottes flotter devant moi et je décolle l'autre boule de la paroi. Je la secoue et je l'entends tinter plus que la première. Je dévisse les deux hémisphères, libérant d'autres perles. Cette fois, je ne trouve pas une paire de menottes, mais un anneau orné de 7 perles, d'où partent 3 fils terminés par autant de perles. On dirait un collier un peu élaboré. Il y a autre chose à l'intérieur. Je secoue les hémisphères et j'en sors un autre collier. Je l'examine et il est identique au premier. Je secoue encore et d'autres colliers en sortent, tous identiques. Je les attrape tous et les fourre dans mes poches. « Ça me rappelle quelque chose, » marmonnai-je en me frappant le front. « Mais quoi ?» Rocky se tapote la carapace avec une pince. Je sais qu'il imite mes mouvements, mais il a l'air de me dire « Réfléchis, abruti !» Que dirais-je à mes élèves dans un moment comme celui-ci? Pourquoi ai-je subitement pensé à eux et à ma classe? J'ai eu comme un flash. Je brandis la maquette d'une molécule et j'explique « Des molécules !» J'attrape les menottes et je les montre à Rocky. « Ce sont des molécules! Vous me parlez de chimie !» Attendez une seconde. Elles sont bizarres, ces molécules. Complètement illogiques. J'examine les menottes. Rien ne forme des molécules comme celle-là. 8 atomes d'un côté, 8 de l'autre, reliés par... Par quoi, au juste? Rien. Et ce fil ne part pas d'une perle. Il est juste attaché au bracelet. Des atomes. Les perles sont des protons. Les colliers de perles sont des atomes. Et les fils sont des liaisons chimiques. Si je ne me trompe pas, je tiens les menottes devant mes yeux et je compte. Nous avons donc 2 atomes avec 8 protons chacun. L'élément numéro 8 est l'oxygène. 2 atomes d'oxygène. O2. Et ils étaient dans la boule ornée du Dernière Chance. Vous êtes des malins, lançai-je en montrant les colliers à Rocky. C'est mon atmosphère. Je sors les autres colliers de mes poches. Donc votre atmosphère est 7 protons reliés à 3 atomes constitués d'un seul proton chacun. Un atome d'azote attaché à 3 atomes d'hydrogène, NH3, de l'ammoniac. Mais c'est bien sûr. Vous respirez de l'ammoniac. Cela explique l'odeur persistante d'ammoniac des objets qu'ils m'ont envoyés. Des traces résiduelles de leur air. Mon sourire fait long feu, cependant. Burke, vous respirez de l'ammoniac ?
Je compte les petits colliers qu'ils m'ont donnés. D'un côté, il y a une molécule d'O2, de l'autre, 29 molécules d'ammoniac. Je réfléchis. Ah, ça y est, je comprends ce que vous voulez me dire. Je me tourne vers mon ami extraterrestre. Votre pression atmosphérique est 29 fois plus grande que la mienne.
Waouh !
Deux choses me viennent immédiatement à l'esprit. Primo, les Éridiens vivent dans une pression énorme, équivalente à celle qui règne à 30 mètres de profondeur dans un océan sur Terre. Secondo, la xénonite est un matériau extraordinaire. Je ne connais pas l'épaisseur du mur, 1 centimètre environ à vue de nez, mais il résiste à une pression relative de 28 atmosphères terrestres, alors qu'il s'agit d'un panneau unique, non renforcé et parfaitement plat. Soit une formule normalement vouée à l'échec. Mais j'y pense. Leur vaisseau tout entier est fait de grands panneaux plats. L'élasticité de ce matériau est proprement incroyable. Je comprends à présent pourquoi je ne suis pas parvenu à plier ou casser les objets qu'on m'a envoyés plus tôt. Nos environnements ne sont absolument pas compatibles. Si je me retrouvais de son côté du tunnel, je mourrais en quelques secondes. Et j'imagine qu'il ne se porterait pas très bien s'il se retrouvait subitement dans un 29e de l'atmosphère à laquelle il est habitué, et sans ammoniac du tout. Ce n'est pas un problème, cependant. On s'entend, on se voit, on peut donc mimer. C'est un bon début pour communiquer. J'assimile toutes ces informations. C'est quand même incroyable. J'ai un pote extraterrestre avec qui je peux discuter. Je suis excité comme une puce. Le problème, c'est que je le suis depuis un bon moment et que la fatigue me rattrape. Je suis à peine capable de me concentrer. Je n'ai pas dormi depuis 2 jours. Les événements monumentaux n'ont cessé de se succéder, mais je ne peux pas rester éveillé indéfiniment. Il faut que je dorme. Je brandis mon index, l'air de dire « Attends une minute, tu veux bien ?» Avec un peu de chance, il se rappelle ce geste. En tout cas, il l'imite à la perfection. Je retourne dans le vaisseau. Je me précipite dans le labo. Il y a une horloge analogique sur le mur. Chaque labo doit avoir son horloge analogique. Je me donne un peu de mal, mais je parviens à la décrocher pour la coincer sous mon bras. Je trouve un marqueur effaçable près du poste de travail, et puis je remonte dans la salle de contrôle et je retourne dans le tunnel extraterrestre. Rocky est toujours là. Il semble se ragaillardir en me voyant arriver. Comment je le sais ? En fait, je n'en sais rien. Il a changé de position et me paraît plus attentif. Je lui montre l'horloge et je tourne la molette à l'arrière pour qu'il voie les aiguilles bouger. Il décrit un geste circulaire avec une main. Il comprend. Je règle l'horloge sur 12 heures. Avec le marqueur, je trace une longue ligne partant du centre et rejoignant le 12, puis une courte allant vers le 2. Je préférerais dormir 8 heures, mais je ne peux pas trop faire attendre Rocky. Je me contenterai donc d'une sieste de 2 heures. Je reviendrai quand les aiguilles se superposeront aux traits, lui dis-je comme s'il peut me comprendre. Il tend 2 de ses bras, fait le geste d'attraper quelque chose et de le ramener contre lui.
Quoi ?
Il tapote la paroi transparente, désigne l'horloge, puis répète le geste. Souhaite-t-il que je rapproche l'horloge de la paroi ? C'est ce que je fais, et cela semble l'enthousiasmer, car il répète plusieurs fois et plus vite le geste d'attirer quelque chose vers lui. Je la rapproche encore. L'horloge est presque en contact avec le mur. Il refait le geste une fois, mais plus lentement. Cette fois, je ne comprends pas ce qu'il veut. Je colle néanmoins l'horloge contre la paroi. Il lève les mains et les secoue à la manière des danseurs de music hall. Est-ce bon signe ? Bref, j'espère qu'il a compris que je serai de retour dans 2 heures. Je me retourne pour m'en aller, mais j'entends toc-toc-toc dans mon dos. « Hein ?» dit-il en désignant l'horloge. Elle s'est un peu éloignée du mur et cela ne lui plaît pas. « D'accord. » Je décolle un bout d'adhésif de la paroi du tunnel, je le coupe en 2, et je me sers des 2 moitiés pour coller l'horloge sur le mur transparent.
Rocky agite de nouveau les mains comme un danseur de jazz. Cela veut dire « oui, je suppose » ou « ça me va ». Un peu lorsque nous hochons la tête. Je me retourne pour partir, mais une fois de plus, toc toc toc. Je pivote de nouveau sur mes talons. « Hé, mec, j'aimerais bien piquer un somme. » Il lève le doigt, usant de mon propre signe contre moi. À mon tour d'attendre. C'est de bonne guerre, j'imagine. Je lève l'index pour lui signifier que j'ai compris. Il ouvre une porte circulaire dans la coque de son vaisseau. Elle est tout juste assez grande pour laisser passer un éridien. J'aurais bien du mal à m'y glisser si cela devenait nécessaire. Il disparaît à l'intérieur, laissant la porte ouverte. J'adorerais savoir ce qu'il y a derrière celle-ci, mais je ne vois rien. Il fait complètement noir dedans. Intéressant. Il n'y a aucun éclairage dans son vaisseau. Cette porte donne sans doute sur un sas, mais même un sas devrait être éclairé, non? Rocky y voyait parfaitement clair, me semble-t-il. Je sais qu'il voit, puisqu'il réagit à mes gestes. Cela semble confirmer ma théorie sur une vision éridienne concentrée sur une autre partie du spectre que la nôtre. Peut-être voit-il tout en infrarouge ou en ultraviolet. Peut-être le sas de son vaisseau est-il parfaitement éclairé pour lui. A contrario, il est possible que mon éclairage soit inutile à Rocky. Je me demande si nous avons des longueurs d'onde en commun. Peut-être le rouge, la couleur avec la longueur d'onde la plus basse visible pour l'homme, est, pour les Iridiens, la plus grande longueur d'onde visible par Rocky, ou quelque chose de ce genre. Cela vaudrait la peine d'étudier la question. Je devrais apporter un arc-en-ciel pour déterminer... Ah, le revoilà. Rocky arrive en rebondissant, puis s'accroche à un rail à la manière d'une araignée pour se rapprocher de la paroi transparente. Il se déplace avec tellement de grâce. Soit il est habitué à l'absence de pesanteur, soit les Iridiens sont d'excellents grimpeurs. Ils ont 5 mains et des doigts opposables, et Rocky est un voyageur interstellaire. Aussi y a-t-il probablement des deux. D'une main, il me montre un objet. Il s'agit d'un... Je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est un cylindre. Ma parole, ils adorent les cylindres. De 30 cm de longueur sur 15 de diamètre. Ses doigts s'enfoncent légèrement dedans, comme s'il était constitué d'un matériau mou. Du caoutchouc ou de la mousse. Dans le sens de la longueur, l'objet est percé de 5 petites fenêtres derrière lesquelles je vois des formes. Je pense aussitôt à des lettres. Elles ne sont pas écrites à l'encre sur du papier, cependant. Elles sont en relief. J'estime leur épaisseur à 3 mm. Le symbole de droite se retourne pour être remplacé par un autre. Quelques secondes plus tard, cela se produit de nouveau. 2 fois, 3 fois... Une horloge. Je vous ai montré une horloge, donc vous me montrez une horloge. Je montre la mienne, collée avec de l'adhésif à la paroi, puis la sienne. Il agite 2 de ses mains libres et je reproduis son geste. J'observe l'horloge iridienne pendant quelque temps. Rocky s'arrange pour que je la voie bien. Les symboles, des chiffres sûrement, défilent derrière la fenêtre de droite. Ils sont montés sur un rotor, comme sur nos vieilles horloges numériques. Un peu plus tard, le 2e rotor à partir de la gauche tourne aussi. Ha ha! D'après mes estimations, le symbole de droite change toutes les 2 secondes. 2 secondes et des poussières. 6 symboles se succèdent, ressemblant à L minuscule, I majuscule, V majuscule, lambda, plus, et A majuscule renversé, comme le symbole mathématique signifiant « vrai pour tout ». Dans cet ordre. Dès que le rotor atteint le L minuscule, celui qui se trouve à sa gauche tourne d'un cran. Au bout d'une minute environ, le rotor voisin avance à son tour. Lorsqu'il atteint lui aussi le caractère L minuscule, le 3e rotor avance d'un cran. Il semblerait que les Iridiens lisent les informations de gauche à droite, comme en anglais, ce qui est une coïncidence bien pratique, quoique pas très surprenante. Après tout, il n'y a que 4 sens de lecture possibles. De gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas et de bas en haut. Nous avions une chance sur 4. La lecture de son horloge est assez intuitive. Elle fonctionne comme un odomètre. L minuscule est clairement leur zéro. J'en déduis donc que I majuscule égale 1, V majuscule égale 2, lambda égale 3, plus égale 4, et A majuscule renversé égale 5. Et les chiffres de 6 à 9, il n'y en a pas. Après A majuscule renversé, on retourne à L minuscule. Les Héridiens comptent en base 6. De toutes les choses que j'enseigne à mes élèves, les bases numériques sont les plus difficiles à comprendre réellement. En réalité, le nombre 10 n'a rien de particulier. Si nous avons 10 chiffres, c'est que nous avons 10 doigts. C'est aussi simple que cela. Rocky et ses amis n'ont que 3 doigts par main et se contentent certainement de 2 mains pour compter, les 3 autres étant nécessaires pour rester debout. Ils ne peuvent donc compter sur leurs doigts que jusqu'à 6. Je vous aime bien, Rocky. Vous êtes un génie. Et je ne dis pas cela pour lui faire plaisir. D'un seul coup, il est parvenu à me montrer comment fonctionnent les nombres héridiens, en base 6. Comment on écrit les chiffres héridiens. L minuscule, I majuscule, V majuscule, lambda, plus et A majuscule renversé. Comment les héridiens lisent les informations. De gauche à droite, combien de temps dure une seconde héridienne. Je lève l'index avant de me précipiter dans le vaisseau pour récupérer mon chronomètre. Dès mon retour, je commence à chronométrer l'horloge de Rocky. Je démarre le chrono lorsque le troisième rotor tourne. Le rotor de droite tourne toutes les 2 secondes environ, et quand les 6 chiffres ont défilé, le rotor suivant s'ébranle. Cela risque de prendre du temps, mais je veux des résultats aussi précis que possible. Le troisième rotor bouge au bout d'une minute et demie. J'estime la durée de l'expérience à une dizaine de minutes en tout, durant lesquelles je ne lâcherai pas l'horloge des yeux. Rocky finit par s'ennuyer. Enfin, je crois. Il commence à s'agiter, puis laisse son horloge flotter derrière la paroi transparente pour errer dans sa moitié de tunnel. Peut-être fait-il quelque chose de particulier, je n'en sais rien. Soudain, il ouvre une trappe dans la coque de son vaisseau, s'y engouffre à moitié, se fige. Il paraît réfléchir, changer d'avis. Il referme la trappe. Il ne veut pas partir tant que je suis là. Après tout, je risque de dire ou de faire quelque chose d'intéressant. Je sais, réponds-je en levant l'index. Il lève également un doigt, puis entreprend de rebondir d'un côté à l'autre du tunnel, équivalent spatial des 100 pas. Enfin, le troisième rotor finit son tour complet et j'arrête mon chronomètre. Résultat, 511,0 secondes. Je n'ai pas de calculatrice et je suis trop excité pour retourner en chercher une dans le vaisseau. Je produis un stylo et griffonne des calculs sur la paume de ma main. Une seconde héridienne dure 2,366 secondes terriennes. J'entoure le résultat sur ma main et le fixe du regard, puis j'ajoute quelques points d'exclamation. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas grand-chose, mais vous vous trompez. Rocky et moi sommes des astronautes. Si nous devons converser, ce sera de science, forcément. Comme si de rien n'était, Rocky et moi nous sommes mis d'accord sur notre façon de mesurer le temps. Prochaine étape, la longueur et la masse. Quoique, prochaine étape, la sieste. Je suis tellement fatigué. Je décolle mon horloge et entoure le 2 avec mon marqueur effaçable, pour être parfaitement clair, avant de la remettre en place. J'agite la main pour lui dire au revoir. Il fait de même. Je m'en vais faire un somme. C'est ridicule. Comment puis-je espérer dormir? Comment quiconque pourrait dormir dans ces circonstances? J'ai toujours du mal à assimiler ce qui m'arrive. Il y a quand même un extraterrestre dans mon voisinage. Dire que je suis dans l'incapacité de découvrir ce qu'il sait des astrophages.
On ne peut pas mimer des concepts scientifiques complexes. Nous avons besoin d'un langage commun, si rudimentaire soit-il. Je dois continuer sur cette voie. Travailler sur notre communication scientifique. Les verbes et les noms de la physique. Ces concepts-là, nous les avons forcément en commun. Les lois de la physique sont les mêmes partout. Dès que nous aurons suffisamment de mots pour discuter de science, nous commencerons à parler des astrophages. Dans VVL lambda I seconde éridienne, nous nous reparlerons. Comment un type pourrait-il dormir dans un moment comme celui-ci? Il n'y a aucune chance que je...